je vais parler aujourd'hui d'un difficile problème qui est le péché originel. Donc le péché originel fut une des questions les plus débattues au Concile de Trente. Il est vrai que c'est un sujet particulièrement difficile. Un des premiers problèmes examinés fut celui de la Vulgate, traduction en latin des textes inspirés de la Bible. Luther pensait que toute la foi était contenue dans les Écritures. Mais quelles Écritures? À part le livre de la Sagesse écrit en grec, la totalité de l'Ancien Testament a été écrite en hébreu. Seul le Nouveau Testament le fut en grec. Une tradition affirme que en 283 avant Jésus-Christ, on réunit 70 savants pour traduire la Bible en grec, d'où le nom de traduction des Septante donné à ce texte. Dans les années 400 après Jésus-Christ, Saint Jérôme s'empara de cette version pour la traduire en latin. Ce fut la naissance de la Vulgate, texte dans lequel furent choisis les textes liturgiques. Certaines découvertes récentes, comme celle de Qumran, ont pu semer le doute quant à la qualité de cette traduction de Saint Jérôme. Mais les critiques ne sont guère allées très loin, et le texte de Saint Jérôme est toujours accepté dans son ensemble. Le Concile de Trente l'avait déclaré accessible à tous, dans ses versions grecques et latines. Pour les traductions ultérieures, et nous voyons qu'il y en a de plus en plus actuellement, elles furent mises à l'index, c'est-à-dire mises dans la liste des ouvrages qui demandent une aide pour être perçus dans leur profondeur, qui demandent l'aide d'un maître spirituel. Au minimum, quelques explications. Le problème des traductions est très délicat. Il n'est que de constater celui actuel des textes liturgiques, comme celui du Credo, pourtant essentiel, et celui du Notre Père. La version grecque moderne dit « Ne nous laissez pas glisser dans la tentation ». Ce n'est pas mal non plus. Je laisse à chacun de comparer les textes, ne serait-ce que ceux du Pater, en anglais, allemand, espagnol, russe, voire suédois ou hongrois. Chaque langue a son génie propre. Le problème des traductions est une source inépuisable de discussions, pour ne pas dire de chicanes. Le premier canon du Concile de Trente déclare « Le premier Adam est détérioré dans son corps et dans son âme par la désobéissance ». On peut remplacer le mot de « détériorer » par le mot de « endommager ». L'idée reste la même. Avant la chute, la nature de l'homme avait une intégrité qui maintenait les appétits sensibles à la soumission de la raison, de l'intelligence, si on préfère. Notre intelligence est étroitement liée à notre sensibilité. Nous ne connaissons la réalité que par nos sens. La tentation d'Ève fut d'abord intellectuelle. Vous serez comme des dieux. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'Ève trouva le fruit appétissant. À ce règne primitif de l'intelligence était liée une certaine immortalité difficile à préciser. La mort du corps biologique est une nécessité. Elle existait bien avant l'apparition de l'homme. Nous citons comme preuve que l'existence des roches calcaires, de la houille et du pétrole. Sans la chute, elle eût été bien différente, sans que nous puissions l'imaginer en quoi que ce soit. Après la chute, l'homme n'a pas été privé de ses facultés naturelles, mais de la partie surnaturelle que Dieu lui avait jointe. Le Concile dit que la matière humaine a été disjointe. L'homme a perdu la majeure partie de ses dons surnaturels et a été blessé dans ses dons naturels. Privé de ce qui lui avait été donné de surcroît, l'homme se trouve malheureux comme un roi dépossédé. Il ne peut plus faire passer sa raison devant sa concupiscence, si ce n'est au prix d'un réel effort. Il a de la peine à domestiquer le corps de mort dont parle saint Paul. Pour prendre un exemple anodin, le gourmand ne peut s'empêcher de regarder avec envie un menu ou un plat bien préparé, même en temps de pénitence. Et je ne parle pas de la mode des pantalons moulants. L'aspect biologique peut prendre le dessus, veut prendre le dessus. C'est le Christ qui, en assumant la nature humaine, a fait de notre mort les prémices d'une autre naissance. En quelque sorte, il a dominé nos débordements sensuels en les assumant et en donnant une nouvelle valeur à nos efforts. Le deuxième canon affirme « Ce ne sont pas seulement la mort et la souffrance qui ont été introduites dans le monde, mais le péché lui-même. » Après la faute originelle, le péché est devenu comme un état. Privé de la grâce sanctifiante, nous sommes dans un état que nous pouvons qualifier de nudité de la grâce, dépouillés que nous sommes de nos dons surnaturels et de la difficulté que nous éprouvons à résister à la tentation. La grâce sanctifiante s'est évanouie. Le troisième canon affirme que le seul moyen d'être vraiment régénéré est de faire appel au mérite de notre Seigneur. Seuls les sacrements ont une valeur agissante. Dans une première étape essentielle, le baptême efface la tâche originelle, cette marque d'infamie, pourrait-on dire, et ce, sans aucun effort de notre part. Cet effacement n'empêche pas, hélas, de pécher ultérieurement, ce qui nous conduira à avoir recours à la pénitence pour dissiper le brouillard dans lequel nous sommes égarés. Nous retournons alors à l'état de grâce. On ne peut que demeurer confus de reconnaissance de retrouver cet état que le Christ a incarné, mort et ressuscité, celui qui a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». À propos de la communion, il a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Incroyable promotion qui veut justifier pleinement par le Felix Culpa que nous chantons le samedi saint. Remarquons aussi que le baptême ne touche qu'une partie minoritaire du genre humain, surtout si on considère l'ensemble de l'espèce depuis les temps anciens. Le Christ appelle certes tous les hommes à partager sa gloire, mais la plupart sont sur des sentiers de montagne et nous les chrétiens sur des autoroutes. Nous sommes vraiment des privilégiés. Pensons-y, pensons-nous suffisamment à dire merci. Cela dit, Adam est appelé au royaume lui aussi. Les magnifiques peintures et mosaïques byzantines qui montrent la descente aux enfers montrent le Christ vainqueur sortant de la grotte en tenant nos parents par la main. Le Concile de Trente insistait sur la grandeur de cette résurrection. Le quatrième canon recommande explicitement le baptême des nouveau-nés, ce que refusaient certains hérétiques comme les anabaptistes pour lesquels le baptême devait avoir un côté volontaire. De fait, on ne demande aux catéchumènes qu'un acte d'acceptation de la grâce, aucune action volontaire préalable, seulement le désir d'une faveur. En réfléchissant quelque peu, la doctrine des anabaptistes a quelque chose de paradoxal. Le péché originel n'a pour cause que la volonté de nos premiers parents, sans aucune responsabilité de leur descendance. Il s'agit en quelque sorte d'une tare liée à notre nature. On ne peut être libéré d'une tare que par un acte volontaire. Notre époque connaît un écho de cette hérésie, comme semble le prouver la complication extrême des préparations au baptême qui dure parfois des mois, voire plusieurs années. Certains n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bout. On est loin du baptême de l'eunuque de Candace par saint Jacques, si bien décrit dans les Actes des Apôtres. Puisqu'il y a là une rivière, pourquoi ne pas me baptiser ? Également sur ce sujet, le Concile de Trente a précisé ne pas faire entrer la Sainte Vierge dans la loi qui frappe les descendants d'Adam. Sans le déclarer comme un dogme, il y a déjà une proclamation de l'Immaculée Conception. Il faudra attendre Pie IX en 1854 pour pouvoir proclamer sous forme de dogme confirmé à Lourdes par la Sainte Vierge elle-même. Nous allons bientôt entrer en avant, pensons-y, avec une immense acte de reconnaissance. Je vous souhaite bientôt un bon avant, à bientôt.